Vous écoutez RTL.
Bonne journée à l'écoute d'RTL. RTL, il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Et en ce lundi 11 mars, on a retrouvé les deux boîtes noires du Boeing 737 qui s'est écrasé hier près d'Addis Abeba, peu après le décollage. Par mesure de précaution, la Chine, l'Indonésie et l'Éthiopie, bien sûr, clouent au sol leurs avions de ce type. Jean-Michel Blanquer prend de court les lycéens tentés de protester vendredi contre le réchauffement climatique. Il propose un grand débat sur la transition écologique au même moment dans tous les établissements. Dans RTL Midi aussi, c'est un jeu stupide qui a conduit à la mort d'une policière au siège de la PJ à Paris. Un revenu universel d'activité pour lutter contre la pauvreté. D'après nos informations RTL, le chantier démarrera dans 3 jours. Une loi pour lutter contre la haine et les insultes sur les réseaux sociaux. Les plateformes auraient 24 heures pour les retirer, sinon elles risqueraient de grosses amendes. Nous serons avec l'auteur de cette proposition de loi, la députée La République En Marche, Laetitia Avia. La météo, bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Un temps de saison entre giboulées et éclaircies.
Cet après-midi, le temps restera très instable sur l'est du pays avec de bonnes giboulées. Déjà ce matin, on a eu de bonnes giboulées de neige sur le quart nord-est. Et donc cet après-midi, on attend de la pluie, du grésil, quelques coups de tonnerre, fortes rafales de vent. Fortes rafales de vent également près de la Méditerranée. Mais là, le ciel est parfaitement dégagé et c'est du grand soleil. Et puis sur la moitié ouest, c'est un temps plus calme pour cet après-midi. Belle amélioration avant le retour de la pluie pour demain et des températures à peu près de saison. 7 degrés cet après-midi à Nancy, 10 à Cherbourg, 11 à Paris, jusqu'à 21 degrés à Nice.
La question du jour sur RTL.fr à propos de transition écologique. Approuvez-vous l'organisation de débats dans les lycées vendredi? Vous dites oui à 30%, 62% de non. On attend vos arguments au 32-10, vos réactions sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal.
Bonjour Christelle, ce sera évidemment l'un de nos débats. Quel regard portez-vous sur Bernard Tapie? Voilà quelqu'un qui est dans notre univers médiatique depuis plus de 40 ans. Que pensez-vous de lui? Appelez-nous au 32-10. Faut-il rapatrier les enfants des djihadistes français détenus en Syrie? C'est une question. Et puis, vous pourrez intervenir également sur les avions. Vous savez que 30% des Français n'ont jamais pris l'avion. Est-ce que vous avez peur en avion? Appelez-nous.
RTL Midi.
Au lendemain du crash d'un Boeing 737 ultra moderne en Éthiopie, les deux boîtes noires viennent d'être récupérées. L'avion s'était écrasé quelques minutes après le décollage avec 157 personnes à bord de 35 nationalités, des Kenyans, des Canadiens, des Éthiopiens entre autres et 9 Français. En attendant le décryptage de ces boîtes noires, Pierre Julien, quelles sont les hypothèses aujourd'hui pour expliquer cette catastrophe?
En fait, Christelle, suite au premier accident quelque peu similaire de la compagnie Lion Air en octobre dernier à Jakarta, les syndicats des pilotes aux États-Unis à l'époque s'étaient inquiétés du manque d'informations et de formation sur ce type de machine. Boeing n'ayant pas jugé utile dans son manuel de mettre l'accent sur les nouveaux automatismes qui doivent empêcher le décrochage en vol. Un bulletin a bien ensuite été transmis car il semble que certains capteurs d'incidence défaillants ont amené le logiciel à faire piquer l'avion pour récupérer de la vitesse. Les pilotes indonésiens n'avaient pas compris ce qui leur arrivait. Les Éthiopiens ont-ils été confrontés à la même situation?
Alors, c'est quand même le deuxième crash pour cet avion tout neuf et cette catastrophe aura forcément des conséquences économiques assez lourdes sur Boeing.
Oui, Boeing envoie une équipe sur place alors que les compagnies chinoises, indonésiennes, éthiopiennes clouent au sol leur flotte de MAX 8, cette quatrième génération de 737 avec des moteurs plus économes en carburant et de nouvelles aides au pilotage. C'est vraiment pour le constructeur américain l'arme anti-Airbus A320neo par excellence. 5200 exemplaires commandés pour 100 millions de dollars en moyenne par avion. Tout va donc dépendre des résultats de l'enquête. On peut aller jusqu'à une interdiction totale. Ce sera alors une question de temps et de beaucoup d'argent. Les équipementiers et motoristes, comme les franco-américains de CFM, seraient également frappés de plein fouet.
Les enjeux sont lourds. Merci Pierre. Avec nous, Xavier Tittelmann, expert en sécurité aérienne. Bonjour.
Bonjour.
Deux accidents, on le disait avec Pierre-Julien à l'instant, en quelques mois pour ce Boeing 737 MAX. Quelles sont les faiblesses de cet avion ?
Aujourd'hui, on est sur des hypothèses, on n'a pas vraiment de causes qui sont avérées. On a évidemment des accidents qui se ressemblent beaucoup. On a des vitesses qui évoluent de manière anormale. On a une altitude, un avion qui n'arrive pas à prendre de l'altitude sur le décollage. On a des pilotes qui comprennent qu'ils ont un problème, qui demandent de pouvoir revenir sur leur aéroport de décollage et qui n'y arrivent pas. Donc évidemment, on pointe du doigt l'avion. Et si on est effectivement sur une cause commune, c'est-à-dire ce système de protection de l'avion qui se met en descente au mauvais moment et que les pilotes n'arrivent pas à reprendre, on est vraiment sur l'avion sera mis en cause et il est clair qu'il peut être cloué au sol.
Mmh. On parle d'un manque de formation des compagnies et des pilotes, de formation et d'information sur ce nouveau système anti-décrochage. Franchement, comment c'est possible ?
Alors, c'était presque un souhait de Boeing de faire un avion qui soit iso-fonctionnalité, c'est-à-dire qu'il n'était pas plus compliqué, il n'y avait pas de fonction vraiment différente, c'était pas révolutionnaire d'un point de vue pilotage. Le but, c'était de rendre la vie des pilotes plus simple avec un système anti-décrochage qui devait être vraiment transparent pour eux. Mmh. Donc le problème, c'est quand ce système se déclenche alors qu'il n'est pas censé être visible, les pilotes doivent savoir le gérer. Et effectivement, pour le crash de Lion Air, on peut dire Boeing aurait dû faire une formation plus approfondie spécifiquement pour les évolutions qui ont eu lieu.
Mais maintenant, là non plus, il n'y a pas eu de formation obligatoire depuis l'épisode de Lion Air ?
Si, justement, il y a eu des évolutions. Lion Air, Boeing a envoyé des notes techniques correctives. Tous les pilotes sont censés avoir été formés pour gérer cette panne qui, dans l'absolu, moi j'en ai parlé avec des pilotes, ils me disent c'est pas très compliqué. On met la main sur la roue pour l'empêcher de se dérouler, c'est facile. Mm. Mais la grosse difficulté, c'est est-ce que cette panne apparaît seule ? Si encore une fois c'est celle-là, est-ce qu'elle apparaît mélangée avec d'autres pannes, auquel cas peut-être qu'on a d'autres alarmes et des choses qui attirent l'attention des pilotes en dehors de cette roue qui se déroule tout simplement, parce que c'est assez fréquent que ça arrive dans l'avion, c'est normal que l'avion maintienne son assiette de cette manière-là. Donc la vraie question, c'est est-ce que les pilotes ont été formés correctement en Éthiopie ? A priori, oui, parce que c'est une compagnie de référence. Et l'autre question, c'est est-ce qu'on est sur le même type de crash ? Si c'est le cas, évidemment, à la fois Boeing et à la fois Ethiopian seront en cause. Si c'est un autre événement, c'est également très grave pour le Boeing, parce qu'on est sur un nouvel appareil. Normalement, il a été testé dans tous les sens pendant sa phase d'autorisation de vol qui a eu lieu en Europe et aux États-Unis. Et c'est un avion dans lequel on doit avoir confiance.
Ça, ce serait quand même assez unique dans l'histoire de l'aéronautique, un avion qui est si récent et qui a autant de problèmes, non ?
Pas tellement. On a une période qu'on appelle le déverminage qui normalement a lieu dans les phases de test et de qualification pour les avions. Mais vous regardez par exemple le 777 qui est l'autre best-seller de Boeing. Cet avion, il a été cloué au sol dans ses premières années, notamment pour faire des vérifications. Donc à l'époque, il n'y avait pas eu d'accident, heureusement. Mais on avait quand même cloué l'avion au sol, on avait fait des corrections, l'avion avait pu repartir, et aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, l'avion n'a pas eu un seul crash pour cause technique avérée.
Mmh. Oui, mais on a envie de dire ça, c'était il y a 20 ans quand même aujourd'hui, c'est assez étonnant que ça arrive encore aujourd'hui, ce type de choses.
Clairement, les agences de sécurité aérienne, notamment américaines, vont être pointées du doigt pour leur incapacité à avoir vu cette évolution et avoir accepté une situation qui n'aurait pas dû arriver. Il n'y aura pas que Boeing qui sera en cause si jamais c'est réellement l'appareil qui est attaqué.
Mmh. Donc il faut, là, aujourd'hui, que les autres pays prennent la même décision que la Chine et l'Indonésie, c'est-à-dire vraiment immobiliser ces avions en attendant ?
C'est compliqué. L'Indonésie, évidemment, et l'Éthiopie ont vécu leur crash
bien
chez
sûr,
eux, donc peut-être
sûr.
Qu'elles veulent rassurer aussi leur population. La Chine a peut-être d'autres objectifs, peut-être qu'elle est aussi une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, peut-être qu'ils préparent médiatiquement l'arrivée de leur futur avion, le Comac, et qu'ils essaient de décrédibiliser leurs autres avions. Donc peut-être que venant de la Chine, il y a d'autres questions qu'uniquement la sécurité aérienne, c'est peut-être sur du beaucoup plus long terme.
D'accord. En tout cas, on peut préciser qu'Air France n'utilise pas ce type d'avion, ces fameux Boeing 737 MAX 8. Merci beaucoup Xavier Tittelmann d'avoir répondu à nos questions. Merci, à bientôt. Mort au 36, le 36 quai des Orfèvres est devenu le 36 rue du Bastion. C'est le nouveau siège de la police judiciaire à Paris. Et la police des polices enquête sur un tir accidentel qui a coûté la vie à une jeune gardienne de la paix d'une vingtaine d'années. C'était hier. Elle a été tuée par l'un de ses collègues, un agent de sécurité qui manipulait son arme de service. Olivier Bois, c'est un jeu qui a mal tourné.
Oui, un jeu stupide qui dégaine le plus vite. Voilà ce qui a coûté la vie à cette jeune policière de 27 ans. Elle jouait a priori à ce jeu avec son collègue, mais lui aurait déclenché le coup de feu par accident. La jeune policière a été touchée à la tête, elle est morte sur place. Son collègue de 28 ans lui a été placé en garde à vue, il a été hospitalisé dans la nuit en état de choc. Ils étaient tous les deux hier soir affectés à la surveillance des locaux de la police judiciaire. Vers 18h30, ils se sont mis dans une petite salle juste à côté de leur poste de surveillance et c'est là qu'ils ont commencé leur défi. Pourquoi est-ce que le coup est parti ? L'enquête va devoir le déterminer. Il faut savoir que quand un policier se met en service, il engage automatiquement une cartouche dans son arme au cas où il faille riposter en cas de menace urgente. Le jeune adjoint de sécurité a-t-il été imprudent au point d'oublier de mettre son arme en sécurité ? C'est l'hypothèse la plus probable.
Olivier Bois, cette information RTL, l'avocat Robert Bourgi, à l'origine de l'affaire des costumes de François Fillon, a été suspendu pendant 5 ans du port de sa Légion d'honneur, et ce par décret du président de la République, paru le 8 mars au journal officiel. Robert Bourgis avait été condamné le 18 décembre par le conseil de discipline du barreau de Paris pour avoir donné des avocats, je cite, une image violente, vulgaire, cynique, de nature à nuire à l'image de cette profession. Dans un instant, le grand débat se met au vert.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
Par ici la sortie, le grand débat s'achèvera le 15 mars et le gouvernement à son tour est prié de faire des propositions. Les ministres en débattent en ce moment même en conseil à l'Élysée. Emmanuel Macron devrait lui s'exprimer à la mi-avril. En attendant, le ministre de l'Éducation nationale veut mobiliser les élèves. Alors que vendredi prochain, les jeunes ont l'intention de se mobiliser contre le réchauffement climatique à travers une journée de grève, eh bien Jean-Michel Blanquer leur fait une contre-proposition. Le jour même, un débat sur la transition écologique dans tous les lycées, Marie Guerrier.
Oui, et c'est tout frais. Hein. La note pour avertir les proviseurs est arrivée ce matin. Ils ont 4 jours pour monter ce débat dans leur lycée et ils ont pour consigne de travailler avec les élèves élus au conseil de vie lycéenne. Philippe Vincent est le représentant des proviseurs au syndicat national des chefs d'établissement.
La capacité des collègues à réunir leur conseil de la vie lycéenne, à leur passer un bon de commande et de voir comment les lycéens peuvent se mettre en phase, ça va être extrêmement serré et sans doute difficile à monter.
Alors le ministre dit qu'il veut donner aux élèves les moyens de s'engager, hein, de débattre avec les enseignants et les personnels des enjeux climatiques, aborder des thèmes comme les économies d'énergie, les énergies renouvelables, le gaspillage alimentaire. L'objectif est d'aboutir à des propositions d'action à mettre en œuvre dans le quotidien des lycées. Mais pour les organiser le débat vendredi de 16h à 18h, précisément le jour où un appel à manifester est lancé.
On voit bien que la tentative, c'est de cadrer le débat et d'éviter que le débat n'ait lieu dans la rue. Bon, maintenant, il faudra voir si les lycéens adhèrent à cette forme d'encadrement.
Le collectif Désobéissance Écolo Paris, qui co-organise la journée de grève et de mobilisation de vendredi, n'a pas bien accueilli l'annonce de Jean-Michel Blanquer et maintient que c'est dans la rue qu'il faudra être vendredi, parce que c'est là que l'on peut faire pression sur les décideurs.
Marie Guerrier.
RTL, sur la route du grand débat.
L'une des thématiques de ce grand débat, c'est la difficulté des agriculteurs face à des revenus aléatoires. Et nous partons en Mayenne aujourd'hui avec Gauthier Delon-Bugard. Le secteur agricole emploie là-bas près de 8% de la population active. C'est 3 fois plus qu'ailleurs dans le pays. Mais beaucoup n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Alors une association baptisée Solidarité Paysan les aide à s'en sortir. C'est le cas de Nicolas Bigot qui est éleveur et qui avait vu trop grand.
Je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus quoi faire et on se trouve vite enfermé chez nous en se disant il n'y a plus de solution. Pour moi c'est invivable, de ne pas avoir de porte de sortie. Quoi. Les bénévoles de Solidarité Paysan nous ont ouvert les yeux sur toutes les solutions possibles dans le monde agricole aujourd'hui. Quoi. Pour réduire les charges au maximum, pour augmenter aussi sa valeur ajoutée. On s'est aperçu par le biais des bénévoles qu'il y avait d'autres solutions que le système intensif. Garder une exploitation à taille humaine, c'est hyper important. On a fait le choix, nous, de reprendre toute notre compta nous-mêmes. Et vis-à-vis d'une banque aujourd'hui, ben, c'est ce qui fait qu'on est plus fort. Ça nous a aidé à nous relancer. On a surtout repris confiance en nous. Ça nous a permis de retrouver du plaisir à faire notre activité. Solidarité Paysan est arrivée le premier jour même. L'élément déclencheur était déjà arrivé. Quoi. C'est une des solutions pour arriver à sortir des agriculteurs de la crise. Quoi.
Nicolas Bigot avec Gauthier Delon-Bugard. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
On le voit avec l'exemple de cet éleveur, se convertir au bio peut être la solution.
Oui, clairement, la tendance est bien là et la demande explose sur le bio. Alors pour les agriculteurs, ce n'est pas forcément simple. Il faut compter une période dite de transition. Après avoir fait du conventionnel, ils doivent attendre 3 ans pour bénéficier de l'appellation biologique. Cela nécessite aussi certains investissements. Pas facile, mais oui, c'est bien une solution aujourd'hui. Il suffit d'observer les prix du lait acheté aux éleveurs, 32 centimes le litre en conventionnel, c'est 46 centimes le litre en bio, une différence en moyenne de 14 centimes par litre. L'autre avantage, et pas des moindres, ces éleveurs subissent moins les variations des prix des aliments pour leurs animaux, puisque généralement ils les fabriquent eux-mêmes. La solution bio attire en tout cas de plus en plus d'agriculteurs, 15 à 20% de plus chaque année. En France, rien que sur l'année dernière, ils étaient 6600 de plus à franchir le cap.
RTL vous le révélait ce matin, Ingrid Levavasseur, une des figures des Gilets jaunes, renonce à présenter une liste aux européennes. Son aventure politique s'arrête là. Elle a dû admettre son incapacité à fédérer les innombrables chapelles qui composent aujourd'hui ce mouvement. D'après notre sondage Harris Interactive, une liste Gilets jaunes récolterait à peine 3% des suffrages le 26 mai prochain. Une pause et dans un instant, cette question douloureuse et délicate. Que faire des enfants français de djihadistes qui sont toujours en Syrie ?
RTL Midi. Avec Christelle Rebière.
La France doit rapatrier les enfants de djihadistes détenus en Syrie. C'est le titre d'une tribune publiée ce matin dans le quotidien Libération et soutenue par une centaine de personnalités. Elle considère que ces enfants sont des victimes de guerre et qu'ils deviendront des bombes à retardement. Si la France les laisse tomber, ils seront alors récupérés par des groupes terroristes. Le Quai d'Orsay, Émilie Beaujard, répond ce matin qu'il s'en occupe.
Mais oui, un traitement au cas par cas, voilà pour la réponse officielle. Mais en coulisses, le sort de ces enfants divise. Il y a d'abord les orphelins, ceux qui sont seuls dans les camps en Syrie, car leurs parents sont morts ou incarcérés. Il serait au moins une dizaine dans ce cas. Et pour cela, la France dit étudier leur situation de très près en lien avec la Croix-Rouge internationale. Un rapatriement pourrait donc être possible sans autre précision. Ensuite, il y a les enfants qui sont avec leur mère. Ils seraient 70 ou 80, moyenne d'âge 5 ans. Il faudrait que les mères abandonnent leur autorité parentale pour qu'ils soient éventuellement renvoyés en France. Là, le dossier coince, puisque la plupart des femmes refusent de se séparer de leurs enfants. À ce stade, donc, aucun enfant n'a été rapatrié de Syrie. Ils vivent dans des camps avec interdiction d'en sortir, dans des conditions plus que rudimentaires. Et en cas de déstabilisation de la région, beaucoup s'inquiètent d'une possible fuite des djihadistes et de leurs familles, qui repasseraient alors hors des radars des autorités françaises.
Et puis cette information qui vient de nous parvenir, Emmanuel Macron va saisir le Conseil constitutionnel sur 3 articles de la loi anti-casseurs qui doit être votée au Sénat demain, sur les fouilles, les restrictions de manifestation et la dissimulation de visage. Comment endiguer ce flot de haine qui se déverse en ce moment sur les réseaux sociaux? Emmanuel Macron avait promis une loi le mois dernier lors du dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Eh bien, une proposition de loi est présentée ce matin par la députée de Paris, La République En Marche, Laetitia Avia. Bonjour.
Bonjour.
L'idée phare de votre proposition de loi, c'est de pouvoir supprimer un contenu raciste, homophobe, antisémite, sexiste le plus vite possible. Ce serait 24 heures, c'est ça?
Exactement. C'est un délai maximal hein, de 24 oui. heures. On peut même le faire bien plus vite, hein, évidemment. L'idée, c'est de responsabiliser les plateformes et de faire en sorte qu'elles ne permettent plus la propagation de ces contenus haineux. Et donc, après un signalement, elles auraient 24 heures maximum pour retirer ces contenus, sous peine de sanctions extrêmement lourdes et donc extrêmement dissuasives.
Mais les plateformes disent souvent que c'est techniquement compliqué d'aller aussi vite.
Non, ce n'est pas le cas. Ça fait un an que je travaille sur le sujet. Mmh. On a une loi allemande également qui contraint au retrait sous 24 heures. Et on peut voir qu'elles ont tout à fait les moyens techniques lorsqu'elles en ont la volonté de retirer les contenus sous 24 heures. En tout cas, de les traiter. Le traitement sous 24 heures peut se faire. La question, c'est ensuite, est-ce qu'elles prennent la responsabilité en retirant le contenu ou non? Mmh. Aujourd'hui, ce qui se produit, c'est que souvent, elles mettent en avant davantage leurs conditions générales d'utilisation, ce qui fait qu'on va retirer très rapidement, par exemple, de la nudité sur Facebook, et non pas les lois de la République. Mmh. Donc, il s'agit d'inverser la hiérarchie des normes, enfin plutôt de la restaurer, et donc de faire en sorte qu'elles appliquent la loi en premier.
Ça veut dire que les signalements seraient plus rapides aussi?
Oui, car aujourd'hui, les signalements sont assez particuliers et souvent dissuasifs. Par exemple, vous allez sur Twitter, la première chose qu'on vous propose, c'est plutôt de masquer un contenu et non pas de le signaler. Vous allez sur Facebook, on vous propose de donner votre avis sur une publication. C'est pas un avis. Il s'agit de donner l'alerte sur quelque chose d'illégal. Donc, l'idée, c'est d'avoir un bouton unique de signalement sur toutes les plateformes, qui soit un bouton d'alerte, un bouton de sécurité, de protection, qui serait même enseigné dans les écoles. Et ensuite, une procédure bien plus simple, en quelques clics, pour signaler tous ces contenus illicites.
Mais ça ressemblerait à quoi, ce bouton unique? Je vois pas bien.
Alors, l'objectif, c'est pas de le mettre dans la loi, parce que je pense que cela résulte aussi du travail du régulateur en la matière, qui devrait être le CSA. Mais si on regarde, si on fait un petit échantillonnage de ce qui existe aujourd'hui, beaucoup de plateformes utilisent par exemple un drapeau.
D'accord.
Je pense que c'est quelque chose de visuellement assez parlant.
Petit visuel sur lequel on pourrait cliquer très rapidement.
Et qui serait reconnu, identifié par tous. Voilà. On sait tous que ça, c'est mon bouton d'alerte. Ça, c'est l'endroit où je clique lorsque je vois qu'il y a quelque chose d'illégal sur Internet.
Vous demandez aussi, Laetitia Avia, aux plateformes d'aider la justice en donnant des informations sur l'identité de ceux qui ont proféré des insultes ou des menaces. Vous croyez vraiment qu'elles vont coopérer?
Alors, cette obligation légale, elles l'ont déjà aujourd'hui, mais ça ne fonctionne pas.
Elles s'y soustraient quand même souvent. Leur,
les plateformes sont à l'étranger. Alors déjà, ne serait-ce que pour nous, hein, pour notre système judiciaire, c'est un coût d'envoyer des acquisitions judiciaires à l'étranger. Et puis, de toute façon, si elles ne se conforment pas, c'est pas très grave, parce que les sanctions financières sont pas très importantes.
Oui, alors que là, il y aurait des amendes très lourdes.
Exactement, donc qui peut avaler au-dessus du million d'euros, et puis aussi l'obligation d'avoir un représentant légal en France, ce qui est bien plus simple en matière de coopération judiciaire.
Mmh. Merci beaucoup, merci Laetitia Avia de nous avoir présenté votre proposition de loi. À bientôt. C'est non, Carlos Ghosn voulait assister demain au conseil d'administration de Nissan, étant lui-même un administrateur, mais le tribunal de Tokyo a refusé sa requête. Il a toujours l'interdiction de rencontrer les protagonistes de l'affaire qui a provoqué sa chute. Je voulais juste évoquer une petite histoire de vol de carburant à Niort qui ressemble à un mauvais conte de fées avant qu'on retrouve Pascal Praud. Un mauvais conte de fées, un cendrillon revisité, Jean-Alphonse Richard.
Oui, ou si vous préférez, une cendrillon au grand pied qui chausse au moins du 44. Histoire qui se déroule donc dans le chef-lieu des Deux-Sèvres, plus précisément sur les parkings de compagnies de transport. Depuis quelque temps, victimes de vol de carburant, des réservoirs de gazole vidés en pleine nuit, 1000 litres prélevés en quelques heures sur plusieurs camions, jusqu'à ce week-end où un vigile surprend un groupe d'hommes en plein siphonnage. Certains sont arrêtés, mais l'un d'eux réussit à s'enfuir à cloche-pied, puisque sur le parking, il a oublié l'une de ses baskets. La police va avoir alors l'idée de contrôler systématiquement les camionnettes qui circulent à ce moment-là et observer les pieds des chauffeurs. Bonne pioche, puisque l'un d'eux, un jeune homme, conduit chaussures pied gauche, mais chaussettes pied droit. L'arrestation ne s'est pas faite en grande pompe, mais le gang des siphonneurs est sous les verrous.
Le gang des siphonneurs, c'était le conte de fées du jour avec Jean-Alphonse Richard. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer dans une dizaine de minutes. Formidable.
Formidable. Écoutez, Laetitia Avia et la loi est plein contre de bons haine. Sentiments, bien évidemment. Mais j'ai peur qu'on n'aille pas assez loin. Il faut lever l'anonymat sur Twitter. Voilà. Est-ce que c'est possible ou pas? Il faut lever l'anonymat. Parce que si vous levez l'anonymat, les gens ne proféreront plus d'insultes racistes. On pourrait évidemment évoquer cela tout à l'heure, puisque c'est un des grands sujets du jour. Parlons de Bernard Tapie. Il est présent depuis tellement longtemps. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Comment vous le percevez dans ses affaires, dans le football et face à la maladie? On pourra également évoquer l'organisation des débats sur l'environnement vendredi dans tous les lycées. Ça, c'est un sujet extrêmement intéressant. Et puis, parlons de l'avion. Pourquoi pas également? Est-ce que vous avez peur en avion? J'ai appris ce matin que 30% des Français n'ont jamais pris l'avion. C'est fou. 30% des Français. Donc voilà, tous les sujets possibles. Faut-il rapatrier les enfants de djihadistes français détenus en Syrie également? À tout de suite.
À tout de suite. La météo, Patricia Charbonnier, bien fraîche.
Les températures sont fraîches. Ce matin, ça piquait un petit peu. Et demain matin, on aura même des petites gelées. Donc cet après-midi, seulement 7 degrés à Nancy, 9 à Lille et Aurillac, 10 degrés à Cherbourg, 11 à Paris, 16 à Marseille et jusqu'à 21 degrés à Nice. Et côté ciel, c'est un temps de saison cet après-midi. Mmh. On a encore pas mal de giboulées. On a eu des giboulées de neige assez marquées ce matin sur le quart nord-est du pays. Et on a encore toute cette instabilité pour cet après-midi, du nord-est jusqu'au nord des Alpes, jusqu'au massif central. Donc des averses de pluie, des averses de grésil, quelques coups de tonnerre, de la pluie, de la neige mêlée, de la neige à basse altitude sur les massifs de l'Est, du plein soleil près de la Méditerranée mais sous de fortes rafales de vent. Et puis sur l'Ouest, on a une petite poussée anticyclonique, donc belle amélioration cet après-midi avec le retour des éclaircies. Et c'est même très ensoleillé sur les plages de l'Atlantique.
Et demain, une petite accalmie.
Donc cette accalmie qui va durer demain toute la journée sur les régions de l'Est et sur la moitié sud du pays. On aura simplement un voile nuageux, alors que du côté de la Manche et sur le nord-ouest du pays, c'est déjà une nouvelle perturbation qui va arriver demain. Et elle s'annonce très active cette perturbation. Donc les pluies seront soutenues et encore une fois, elle va s'accompagner de fortes rafales de vent. Nouveau coup de vent attendu sur les départements côtiers de la Manche, jusqu'à 110 km/h en rafale demain après-midi sur les côtes de la Manche, avec donc des températures fraîches en matinée. Petite gelée, moins 2 degrés à Nevers, 0 degrés à Reims, 4 à Lille, 9 à Brest et de 11 à 21 degrés dans l'après-midi, 11 degrés à Lille, 12 à Quimper et Colmar, 13 à Paris, 16 à Lyon, 19 à Cahors et 21 degrés, ce sera le maximum pour Pau. Alors on profite de cette accalmie entre cet après-midi et demain, car à partir de demain et jusqu'en ça fin repart. De semaine, c'est reparti. Défilé de perturbations très active, avec en plus du vent et des températures qui sont à peu près de saison.
Ça s'appelle le mois de mars. Merci. Dans un instant, le rappel des titres avec Agnès Bonfillon.
RTL.
Il est 13h.
Le tout
Minute Info, des auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec vous Agnès Bonfillon, bonjour.
Bonjour Christelle, bonjour à tous. Les deux boîtes noires du Boeing 737 d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasée hier après le décollage d'Addis Abeba, eh bien ces deux boîtes noires ont été retrouvées. Les 157 passagers ont tous trouvé la mort. Parmi eux se trouvaient 9 Français, dont la petite nièce d'Yves Offrette. Sarah, 34 ans, se rendait à Nairobi pour un congrès. La jeune femme originaire de Kérien dans le Finistère était très engagée dans la protection pour l'environnement.
Je suis très 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 peinée, très affectée parce que c'était une très gentille fille, très très agréable de contact. Elle a été guide touristique en Norvège, mais aussi au Japon où elle a été pendant quelques années enseigner le français. C'était une fille qui était heureuse de sa mission. Alors elle était 6 mois dans l'Antarctique et 6 mois autrement, soit en Norvège, soit au Japon. C'était un peu la globe-trotter.
Des propos recueillis par Arnaud Touche pour RTL. Ethiopian Airlines a décidé d'immobiliser tous ses Boeing 737 MAX 8 jusqu'aux conclusions de l'enquête. La Chine et l'Indonésie ont pris la même décision, sachant qu'en 5 mois, c'est le 2e crash de ce modèle d'avion. Aider à sortir de la pauvreté, Emmanuel Macron avait promis en septembre un revenu universel d'activité. 6 mois après, le chantier sera lancé le 14 mars. C'est une information RTL. Il s'agit d'un revenu pour les personnes modestes qui doit regrouper un maximum d'aides sociales. Et il devrait concerner 1 Français sur 10, Anaïs Bouissou.
Oui, l'objectif, c'est d'avoir un revenu simple à verser, simple à comprendre pour éviter le millefeuille actuel des prestations sociales, ainsi que le phénomène du non-recours. Ce revenu universel d'activité concernera au minimum les actuels bénéficiaires du RSA, de la prime d'activité, ainsi que les familles qui touchent des aides au logement. Ça, c'est le socle minimum. Mais le chantier qui s'ouvre cette semaine devra préciser à terme si on ne pourrait pas rajouter d'autres bénéficiaires. On pense par exemple aux personnes en situation de handicap. De la même façon, faut-il ouvrir le revenu universel aux jeunes, à ceux qui ont moins de 25 ans et sous quelles conditions? Et pourquoi pas aller encore plus loin, élargir ce revenu à ceux qui ne travaillent plus, les personnes à la retraite, qui touchent le minimum vieillesse. Toutes ces questions sont ouvertes, sans tabou, nous dit-on, pour aboutir à une loi d'ici 2020. Une chose est sûre, il y aura des contreparties, ce ne sera pas une aide versée les yeux fermés. Ce revenu, c'est en tout cas le but affiché du gouvernement, devrait être une étape, et une étape seulement pour la plupart des Français, vers l'insertion dans la société et, quand c'est possible, vers le retour à l'emploi.
Les informations d'Anaïs Bouissou pour RTL. La loi anti-casseurs a été adoptée la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Avant le vote au Sénat demain, Emmanuel Macron annonce qu'il va saisir le Conseil constitutionnel sur 3 articles, les fouilles, la restriction d'accès aux manifestations ou encore la dissimulation des visages. Début cet après-midi du procès de l'arbitrage en faveur de Bernard Tapie. Il avait obtenu 400 millions d'euros de compensation en 2008 après la vente d'Adidas par le Crédit Lyonnais. À ses côtés vont comparaître 5 autres personnes. Cet arbitrage a-t-il été décidé de façon impartiale ou non? C'est tout l'enjeu de ce procès. Invité ce matin sur RTL, Bernard Tapie a hâte de dire ses vérités à l'audience.
Il y a des vérités incontournables. Par exemple, après ce procès, plus personne pourra dire que Tapie a gagné 404 millions à l'occasion d'un arbitrage. Celui qui le dira aura un procès en diffamation. On mélange l'argent qu'on me devait et l'argent de l'arbitrage. Ça fait beau. Alors, la seule certitude, c'est qu'on ne pourra pas dire que j'ai coûté de l'argent contribuable. Vous voyez, ça change. Donc, rien que pour ça, je suis assez heureux que ce procès arrive. On va tout mettre sur la table. La justice décidera.
Êtes-vous optimiste, Bernard Tapie, pour l'issue de ce procès?
Je suis toujours optimiste.
Bernard Tapie, joint par Jean-Alphonse Richard pour RTL. Rapatriés ou non, les enfants de Français partis faire le djihad en Syrie. Oui, c'est évident pour une centaine de personnalités qui publient une tribune dans Libération aujourd'hui. Cette question, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, l'a abordée lors d'une conférence de presse dans la matinée. Pour elle, il faut faire du cas par cas.
Je pense qu'il est tout à fait irresponsable d'envisager ce genre de choses de manière globale. Il est évident que si nous sommes là face à des enfants de quelques mois ou très jeunes, il y a assez peu de difficultés à envisager leur retour. Qu'en revanche, si nous sommes confrontés à des adolescents qui ont vécu une grande partie de leur vie grâce à cette violence djihadiste, la situation est très différente. Donc je pense qu'il faut rester vraiment sur du cas par cas. En revanche, concernant leurs parents, hommes ou femmes, là pour le coup, aucune différence entre les deux. Ils ont choisi de partir là-bas, qu'ils y restent.
Marine Le Pen avec Benjamin Sportouche. Il ne pourra pas porter sa Légion d'honneur pendant 5 ans. C'est une information RTL. L'avocat Robert Bourgi est sanctionné pour avoir acheté des costumes de luxe à François Fillon. Direction maintenant la Bourse de Paris avec Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Bonjour Sylvie.
Bonjour Agnès.
La Bourse tente en rebond.
Un tout petit rebond. Le CAC avait cédé 0,6% la semaine dernière. Il en regagne 0,2% ce matin, 5242 points. Les investisseurs profitent de la baisse de la semaine dernière pour saisir quelques petites opportunités. Mais ils sont prudents car il y a des doutes sur la croissance mondiale. Le Brexit devrait aussi rester le fil rouge de la semaine sur le marché. La semaine dernière, plusieurs statistiques alarmantes ont été publiées. C'est pourquoi on attend avec un peu d'anxiété la publication aux États-Unis des ventes au détail de janvier tout à l'heure. Sur le marché d'échange en ce moment, la livre s'affaiblit. Et oui, demain, le Parlement britannique va s'exprimer une nouvelle fois sur le plan de sortir de l'Union présenté par la Première ministre Theresa May. Et à Wall Street, l'action Boeing est attendue en forte baisse. On s'en doute après le crash du 737 MAX 8. Et à Paris, Safran, dont les moteurs équipent le 737 MAX 8, cède 2,5%. À Paris, Elis gagne plus de 4%. À l'inverse, Ubisoft, Europa et Manitou abandonnent toutes les 3%.
Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Merci Sylvie. Il est 13h06 sur RTL. Dans un instant, les auditeurs ont la parole. C'est au 3210 avec Pascal Praud.
Vous écoutez RTL.